vers la révélation, la révélation du Seigneur au travers de sa parole. Notre Dieu et Père, nous te remettons cet instant, que ce soit pour nous, pour les enfants, afin que ta parole, qui est la vérité et la vie, pénètre au plus profond de nous-mêmes et fasse un travail de transformation de notre être, afin que nous puissions davantage ressembler à Jésus, notre Maître et notre Seigneur. Seigneur, nous sommes disciples et nous voulons, en tant que disciples, être à l'écoute de ta parole. Amen. Je suis toujours dans ce thème sur le péché lié à l'identité. Et sachez que j'apprends autant que vous, peut-être plus, pendant ces temps de préparation. J'ai pas d'avance sur ce que je vais vous dire, parce que le Seigneur m'enseigne au fur et à mesure que je prépare. Et donc, ce sera pas terminé, parce que, en plus, je veux respecter un peu les horaires, et quitte à reprendre le dimanche suivant la suite. Donc, ce sont plusieurs textes qui sont à l'appui de cette réflexion dans Matthieu 16. Je relis pas l'ensemble de Matthieu 16, mais c'est le support de cette réflexion. Matthieu 16 au verset 13, à partir du verset 13, sur la question que Jésus pose à ses disciples, et comme je le disais l'autre fois, ce n'est pas n'importe quand qu'il la pose. Il la pose à la fin de son ministère, des 3 ans en Galilée, juste avant de monter sur la croix. Hein. Jésus a fait plusieurs fois le tour de la Galilée, le tour d'Israël. Il est descendu à Jérusalem, il est remonté, il allait à toutes les fêtes juives, Jésus. Et là, il savait qu'il allait donner sa vie, hein, parce que Jésus a donné sa vie de lui-même, on ne l'a pas pris. Et sachant qu'il avait cette mission à faire pour l'humanité, il réunit ses disciples à un endroit qui est au nord d'Israël, dans une cité, la Césarée de Philippe, qui est juste au pied du mont Hermon. Et il leur pose cette question, alors qu'ils ont vu son ministère, alors qu'ils ont vu les miracles, alors qu'ils ont vu tout ce que Jésus a fait, alors qu'ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, il leur pose cette question: qui dit-on que je suis? Voyez-vous, il leur pose pas la question au début. Il aurait pu leur poser la question quand Jésus rencontre Pierre, et il l'intègre dans ses disciples, quand il rencontre André, tous les disciples, il aurait pu dire, vous voulez me suivre, mais vous savez qui je suis. Et il fait pas ça. Il appelle les disciples, voyez, et c'est un peu comme ça avec nous, hein, il veut que notre cœur soit engagé, pas notre tête. Mais là, il leur demande: qui dit-on que je suis? Et une fois que les disciples ont répondu, on dit ceci, cela, il y avait tout un tas de réponses, mais pas la bonne. Et Jésus dit: qui dites-vous que je suis? Donc il interpelle les disciples: vous qui m'avez vu, vous qui m'avez suivi, vous qui avez vu mon ministère, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, le problème de l'identité, la question de l'identité, c'est une question fondamentale, ce qui nous concerne tous. Et nous concerne tous, qui sommes-nous? Et c'est une question, ce qu'on appelle existentielle, dans le sens où c'est l'existence, notre propre existence qui dépend de cette réponse. Qui suis-je? Qui est Jésus? Qui suis-je? Alors, qui est Jésus? Pierre, il a très bien répondu, il a dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus tout de suite dit: c'est pas toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc c'est de l'ordre de la révélation. La nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut, je préfère ce mot-là, les deux peuvent être, sont exacts. La naissance d'en haut, c'est une naissance par révélation. Amen. Pour ce qui me concerne, moi, depuis tout petit, j'ai aimé le Seigneur, à ma façon, parce que mes parents étaient catholiques, et je l'ai aimé et j'ai cherché. Et c'est à l'âge de 20 ans, quand j'avais 20 ans, j'ai reçu la révélation. Avant, j'aimais, je lisais mon livre de chevet, c'était le Nouveau Testament. c'est, je lisais tous les soirs, mais j'avais besoin d'une révélation. Et la révélation est venue quand j'avais 20 ans. Cette révélation était tellement forte de la présence du Seigneur que c'est un peu comme Saul, tombé de son châle, hein. Une grande lumière qui est apparue, qui m'a brûlé tellement elle était forte, la lumière de Jésus. Et ça m'a tellement, tellement brûlé pendant des semaines et des semaines que voilà, ça a transformé ma vie. C'est une révélation. Quand on a une révélation de Jésus, eh bien, on sait que ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Les gens peuvent dire, moi je peux dire, mais quand le Saint-Esprit nous touche, on sait que on est en contact avec Dieu. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième, c'est de savoir qui on est, nous. Qui est Jésus, c'est une chose. Il nous est révélé que c'est le Messie. Mais nous. Et le problème du chrétien, en général, c'est nous. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Donc je doute de moi. Je doute d'un tas de choses. Je doute, voilà. Je doute. Paul pouvait dire, je sais qui je suis. Parce que je me confie en lui. Et et dans ses épîtres, on voit qu'il pouvait défendre son ministère. Il défendait son ministère. Il était attaqué. Vous voyez, parce qu'on est attaqué. On est attaqué dans notre identité. Si notre identité n'est pas sûre, si nous n'est pas sûre notre identité, eh bien nous vacillons. Et c'est comme ça qu'il y a le doute. Il y a le doute. Pas du Seigneur, mais de nous. On doute de nous. On doute de nos capacités à être chrétien. Notre capacité à être un disciple. Voyez-vous, je suis content que de plus en plus, vous allez dans la rue, l'extérieur, prier. Peu importe ce que les gens disent ou regardent. Si vous voient, au contraire, vous dites, qu'est-ce que vous faites? Mais on prie, tu veux que je prie pour toi? Voyez, vous êtes sûr de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Tu as honte de l'évangile? Bon, on m'a appris pour les gens dans la rue. Voilà. Pas de manière effrontée, hein. Pas de manière révolutionnaire, pas de manière à choquer. Mais simplement, naturellement, vous êtes surnaturel. Hein? Naturellement, vous êtes surnaturel. Et surnaturellement, vous êtes naturel. Il faut rester dans cette simplicité. Simplement, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Mais la vie fait partie de la vie aussi. Hein? Et vous répandez la vie autour de vous, simplement vous bénissez. D'ailleurs, bénis-la. Terminé. Vous gardez les yeux ouverts. Hein? Wimber disait toujours, gardez les yeux ouverts. Parce que bon, vous pouvez fermer les yeux, c'est... de toute façon, ça ne change rien. Hein? Le Seigneur vous aime quand même. Si vous ouvrez les yeux, vous allez fermer les yeux, vous croyez? Tu crois, Rémi, que le Seigneur t'aime mieux si tu fermes les yeux? Non? Bon, alors pourquoi tu les fermes? Voilà, c'est la question. Et il faut toujours se poser des pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Alors, c'est pas mauvais de fermer les yeux. Moi aussi, je ferme les yeux. Ça permet de me concentrer, de penser à autre chose, ok. Mais ça, c'est dans l'église, entre nous, c'est bien. Mais à l'extérieur, les gens, vous fermez les yeux, ils disent, waouh, il est mystique, lui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh là! Et hop, un petit recul. Non, non. Dites, Seigneur, tu le bénis au nom de Jésus. Vous regardez les yeux dans les yeux. Voilà. Vous voyez, il faut être naturel. Vous êtes naturel? Vous voulez être naturel? Il faut être naturel. Il faut que l'évangile passe naturellement dans la vie quotidienne. Amen? Dis amen. Dis à ton voisin, sois naturel. Soit naturel. Soit naturel, surnaturellement. Voilà, soit naturel. Hein? Que ta foi soit naturelle. Que ta foi soit incarnée, naturelle. Ok? Voilà. Voyez-vous, Jésus, il entrait naturellement chez Zachée. Il a mangé, etc. D'ailleurs, on lui reprochait. Autant, même des prostituées qui sont là. Mais oui, mais c'est toute la société, il est naturel. Ok? Donc soyons naturellement surnaturels. La question de l'identité est une question fondamentale, non pas pour notre salut, parce que si nous acceptons Jésus, nous sommes sauvés. Ok. Donc, nous allons au ciel. On a tous notre ticket pour aller au ciel, hein? Salut en Jésus-Christ. Mais après, le problème, c'est comment est-ce qu'on vit sur la terre? Ah! Alors, il y a des chrétiens qui attendent une chose, c'est que le Seigneur nous vienne pour les enlever. Et je sais qu'il y a beaucoup de prédications, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de conventions qui portent là-dessus. Certains qui parlent que du retour de Jésus, avec des signes, avec Israël, avec ceci, cela, bon, voilà. Un peu comme si ça calme les douleurs de la terre pour aller vers le ciel. Vous savez, on n'a rien inventé chez les évangéliques. L'Église catholique l'a institué, ça. Les mystiques, ils sont déjà dans le ciel avec le Seigneur. Vous allez, Marie-Madeleine à Paris, la Madeleine à Paris, vous voyez, l'intérieur, là, ça s'appelle la ravissement de Madeleine. Elle est partie au ciel. Donc vous voyez, elle n'a rien inventé. Hein. L'Église catholique a passé avant nous, elle a tout inventé. Mais nous, ne soyons pas de cela, ne soyons pas des mystiques, soyons des gens incarnés dans notre culture, dans notre société, avec les gens réels qui ont des besoins et pour lesquels Dieu veut intervenir. Et priez simplement, les yeux ouverts. Toc. Seigneur, tu le guéris. Au nom de Jésus, maladie, tu t'en vas. Au nom de Jésus. C'est ça. Amen. C'est la vie. Mais c'est par la puissance de l'autorité que vous avez en Jésus-Christ que vous le faites. Et ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Ça marche. Si tu le crois, ça marche. Hein? Si tu ne le crois pas, ça ne marche pas. L'identité. Nous sommes tellement meurtri dans notre identité que nous ne savons plus qui nous sommes. Et tout le monde nous le fait savoir. La famille, la culture, le monde, l'environnement, le travail. Bon, tu es un bon à rien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Voilà. Tout ça, ça nous empêche d'être dans notre identité. On doute de soi-même. Le Seigneur ne doute pas de toi, hein, Pichun. Le Seigneur a mis tout toute sa vie pour que tu rentres dans ton potentiel. Amen. Mais c'est moi qui me limite dans mon potentiel. Amen. C'est pas le Seigneur. C'est moi parce que je doute de mon identité. Alors l'identité, selon les gens qui ont recherché à comprendre l'identité humaine, je parle d'identité humaine, est un phénomène complexe. Phénomène complexe. C'est pas comme ça. D'ailleurs, vous le voyez très bien. Hein. N'importe qui d'entre vous le voit, et Sylvie en particulier qui s'occupe des petits bébés. Les petits bébés, on ne sait pas très bien ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, et on les voit évoluer. Est-ce que le petit bébé sait son identité? Non. Tout ce qu'il sait, c'est que voilà, il a besoin de faire dans les couches, donc il a faim et crie, voilà. C'est très basique, son identité. C'est l'identité de survie, ce qu'on appelle. Il veut juste survivre. Et il a besoin d'une maman, d'un substitut de maman qui lui donne la béquille, etc. Voilà. Donc c'est très basique, son identité. L'identité se réduit à « je ne veux pas mourir ». Et je crie. Je crie pour que tu ne me laisses pas mourir. Voilà. C'est ça l'identité. Vous voyez, donc c'est primaire. Et ensuite, petit à petit, à l'âge de 7 ans, 6-7 ans, il y a une sociabilisation qui se produit. Par exemple, les sociologues, enfin les psychologues disent que à 6-7 ans, pas avant, l'enfant peut se décentrer de lui et penser aux autres. Tiens, il y en a d'autres sur la terre. Il n'y a pas que moi. Et ma maman. Voilà. Et ma maman. Il y a d'autres personnes. Et donc il y a un décentrage vers l'autre, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie de l'enfant, hein, mais vous avez des grands spécialistes, Bourdieu, etc., des Français qui ont beaucoup travaillé là-dessus, de très très bonnes études, qui vous expliquent que petit à petit, l'identité se forge, et il y a des couches qui se rajoutent. Alors, il y a un chrétien que j'aime bien, entre autres, qui évolue dans les milieux des groupes bibliques universitaires, il s'appelle Hans Bürki. Ah, je ne trouve plus mon feutre, mais je crois qu'il est là. Oui, il est là. Hans Bürki. Et Hans Bürki, il montre comment l'évangile est un agent de transformation de notre identité. Quand on vient à Jésus, alors il y en a qui sont pour certains, certains privilégiés parce que ils connaissent Jésus tout petit, parce que les parents peuvent s'en occuper, c'est l'idéal. Bien que ce soit pas parfait, hein. N'imaginez pas que les parents chrétiens soient parfaits. Mais ils font quand même attention et ils essayent que les enfants n'aient pas trop de traumatismes. Mais en général, ceux qui viennent à un certain âge avancé, il y a des traumatismes dans la vie. Et il faut que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puisse les transformer pour les aider à retrouver l'identité que Jésus a voulu pour eux, pour qu'ils puissent vivre pleinement dans la vie avec Christ. Amen. Pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de la vie. Et donc, Hans Bürki dessine un peu des cercles, il dit là il y a le moi, donc vous voyez le moi c'est vraiment le bébé qui a besoin de survivre, donc c'est l'identité profonde, je dirais. Après il y a d'autres cercles qui se développent, comme les sentiments envers les parents, les frères et sœurs, l'intelligence qui se développe pour comprendre ce qui est autour de lui, qui comprend un peu qu'il n'est pas seul dans l'univers, qu'il y en a d'autres, qu'il y ait des relations, etc. Donc des relations, etc. Des gars, il appelle ça des pots. Un peu comme un tronc d'arbre quand vous le coupez. Hein. Vous voyez, il y a des lignes. Voilà. Et ce sont des lignes qui permettent de comprendre un peu qui nous sommes. Hein. Et vous voyez, chaque ligne a son... Alors, après, il y a les vêtements. On s'habille d'une certaine manière. Vous avez déjà vu les ados s'habillent un peu pareil, voilà. Et suivant les époques, il n'y a pas les mêmes habits, hein, pour s'identifier au groupe, etc. Ensuite, après, il y a d'autres identifications qui sont la culture dans laquelle nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, etc. Parce que on s'identifie à ce qui est notre environnement, etc. Et voilà. Et à un moment donné, on s'identifie aussi au passé, hein, au passé, nos ancêtres. Ce qu'ils nous ont transmis, d'où nous sommes, on cherche tous à savoir d'où nous venons, hein, et aussi où nous allons, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Hein. Donc il y a deux points qui sont importants, c'est notre naissance, et on veut savoir un peu ce qui s'est passé avant, et notre futur, hein, au niveau de la mort. Hein. Pourquoi est-ce que... voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a le néant? Après moi, il y a le néant. Plus rien, vous voyez, des grandes questions existentielles de l'être humain qui nous hantent tous. Eh bien, il y a deux manières dont nous laissons l'évangile de Jésus-Christ nous toucher. Je parlais tout à l'heure de la nouvelle naissance ou de la naissance d'en haut. Je suis né par la révélation que je reconnais que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur, qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il a porté mes péchés, qu'il a enlevé le poids de ma culpabilité, que je peux à nouveau retrouver la relation avec Dieu. Parce que Dieu est saint, et nous ne pouvons pas rentrer en relation avec lui s'il n'y a pas la question du péché qui est réglée. Donc, un chrétien qui est sauvé, en fait, c'est quelqu'un qui accepte que son moi soit confié au Seigneur. Donc il est touché dans son être le plus profond en disant « Seigneur, je reçois ». Tant que la personne n'accepte pas dans son être le plus profond Jésus, il ne peut pas être sauvé. La religion, c'est quand la question de Dieu touche un aspect religieux, hein, qui est un cercle assez éloigné, parce qu'il a été baptisé tout petit, il est chrétien, parce que voilà, il aime cette religion, il aime cette façon de faire le culte, il devient religieux, etc. Donc vous voyez, ça c'est le religieux, ça c'est la personne qui accepte Jésus, qui devient chrétienne. Mais après, la personne, le chrétien vit tristement. C'est un triste chrétien. C'est-à-dire il garde son salut, parce qu'il s'accroche, hein. Oui, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Hein. Mais toute sa vie, il vit tristement. Tristement, voilà, il n'a pas la joie du Seigneur, donc pas la force. Donc n'ayant pas la force, bah, il se décourage, etc. Et c'est tout ça, ça se tient. Et on n'a pas des gens qui sont pleins de vie. C'est des tristes chrétiens. C'est des tristes églises. C'est des églises avec lesquelles, bon, on se dit ah, heureusement je suis pas chrétien hein, quand je vois la tête. Mais non, il faudrait pas que ce soit comme ça, mais c'est comme ça, c'est comme ça, parce qu'on n'a pas la joie du Seigneur pleinement, parce que toutes ces peaux-là ne sont pas régénérées, pas régénérées. Alors en plus il y a la vérité, je décide d'un soleil parce que je peux pas mettre du blanc dedans, et il y a les ténèbres, d'accord, il y a les ténèbres de ce monde, hein. Voilà. Et voilà, ça c'est le Sheba Dans Burki, qui dit qu'un vrai chrétien qui veut être touché dans son identité, qui veut renouveler son identité pleinement, il faut que l'évangile, qui est au départ la révélation, puisse toucher toutes ses peaux, aller vers le passé, revenir au centre, aller vers la mort, et le transformer. Donc, c'est parce que nous sommes des êtres culturels. Nous sommes tout ça, c'est la culture au sens général qui nous influence. Et il faut que nous le laissions. Donc, c'est un processus, disons, de toute une vie. Et c'est pour ça que nous, on a le torrent qui purifie, qui permet justement de voir dans toutes ces couches et dans le passé, quels sont les droits, etc. Parce que l'ennemi, dans tout ça, il a ses agents qui veulent nous contrôler, qui veulent nous garder prisonniers. Or, le Seigneur Jésus est venu nous libérer de tout ça. Le Seigneur Jésus était libéré dans sa culture. Et pourtant, il était dans la culture. Il s'habillait comme les Juifs. Hein, et voilà. Il était naturellement surnaturel. Mais il était libre de tout ça. Et il veut nous rendre libres. Okay. Le problème de l'identité est le suivant. C'est que nous sommes, en tant qu'adultes, là, je ne parle plus en tant qu'enfant, devant un choix. Devant un choix. Entre deux voies possibles. Entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Pourquoi je vous dis ça? J'invente là? Vous connaissez la même histoire que moi? C'est quoi cette histoire-là? Allô? Allez, parlez. Voilà, c'est l'origine, non pas mythique, parce que tous les mythes fondateurs existent, mais ça c'est pas un mythe, c'est une révélation. Révélation de nos origines. Jésus, Dieu a placé dans le... Est-ce que quelqu'un peut venir, Charles? Parce qu'il s'est défait derrière et il se casse la figure. Dieu a placé, quand il a créé l'homme, il a placé deux arbres. Mais ce sont des arbres symboliques, hein, c'est pas des arbres... Alors, la mythologie classique dit que c'est un pommier, mais ça n'a rien à voir avec pommier, c'est pas marqué, c'est un pommier. Un fruit. Un arbre qui porte des fruits. Un qui porte des fruits pour la vie, et l'autre des fruits pour la mort. Ok? Voilà. Et comment aujourd'hui, alors ça on connaît bien l'histoire de la Genèse, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ces arbres existent encore? Hello? Je m'adresse à vous là. Est-ce que ces arbres existent encore, ou est-ce qu'ils ont disparu avec la Genèse, ils sont morts parce qu'ils sont trop vieux, comme les séquoias, ils ont 2000 ans. Non, est-ce que ces arbres existent encore? Avec des branches. Absolument, avec des branches. Non, parce que je veux savoir à qui j'ai affaire, là. Moi aussi j'ai un problème d'identité avec vous. Est-ce que vous croyez à ça aujourd'hui? Amen. Alors, où se trouve la réponse à ça pour aujourd'hui? Jésus, alors ça c'est une réponse bien, mais assez bateau, parce que voilà, il faudrait aller plus loin. Et encore, quel est le verset que tu pourrais me citer qui actualise cette réalité, puisque vous y croyez, cette réalité de ces deux arbres, pour lequel il y a un choix à faire pour chacun de nous, et qui détermine notre identité. Notre identité est déterminée par le choix que nous faisons en permanence entre ces deux arbres. Oui, il a choisi la vie. Alors ça, c'est une réponse, mais elle n'est pas complète. Pardon ? Le fils à la vie, oui, mais c'est toujours la vie, ok, voilà, vous êtes sur la vie là. Mais il faudrait essayer l'autre arbre là. Il y a un verset qui est très très clair, qui explique la Genèse, Genèse 3, 3:16. Tout à fait, c'est vrai. Il y a plusieurs, mais il y en a un qui est opérationnel, parce que vous savez, il y a des versets qui ne sont pas opérationnels. Non, c'est pas Jean 3,16, mais tu as l'évangéliste qui en parle, c'est Jean qui en parle, mais dans une de ses épîtres. Alors je vais vous emmener dans ce passage. C'est un verset que, à un moment donné, j'ai martelé des semaines entières pour qu'il rentre dans mon cœur. C'est 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,15 dit une chose. N'aimez pas le monde. Alors, vous connaissez ce verset ? N'aimez pas le monde. Il dit pas sortez du monde, hein. Il dit n'aimez pas. C'est comme l'argent. Il dit pas n'ayez pas d'argent. Il dit n'aimez pas l'argent. Voyez-vous, c'est une chose d'avoir de l'argent, une chose d'aimer l'argent. C'est une chose d'être dans le monde, une chose d'aimer le monde. Vous voyez, il y a juste un petit mot qui sépare les choses. N'aimez pas le monde. Pourquoi ? Hello ? Quelqu'un le lit à haute voix ? Attends. N'aimez pas le monde, parce que c'est important avant d'arriver à la conclusion, de bien comprendre que c'est grave d'aimer le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Voyez-vous ? Ni ce qui est dans le monde. Hein ? Si je voulais déjà commencer à remplir le long tableau, là, je dirais ça déjà, c'est le royaume du monde et c'est le royaume de Dieu. Vous voyez ? Il y a deux royaumes. Hein ? Okay. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Attention, c'est pas dit n'allez pas dans le monde, c'est dit n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'apôtre Jean, il insiste lourdement, hein, il a la main lourde. Hein. Si quelqu'un aime le monde, c'est quoi ? L'amour du Père n'est pas dans lui. Alors dites-le tous ensemble. L'amour du Père n'est pas. L'amour du Père n'est pas en lui. Dites-le parce que c'est votre identité qui dépend de ça. Votre identité dépend de la révélation que vous recevrez de ces versets. Alors dites-le. L'amour du Père n'est pas en lui. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'autorité, c'est pas moi. Moi, je vous transmets. Ok, mais allez vers la parole. La parole lui dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors ? Qu'est-ce qui est dans le monde ? Dans le monde, il y a la connaissance. Les gens cherchent la connaissance. La sagesse. Les Grecs aimaient la sagesse. Les Égyptiens aimaient la magie. Et ceux de la Mésopotamie, de l'Orient, la Perse, l'Irak, enfin, on en parle en ce moment, ils aimaient l'astrologie. Vous voyez, tout ça, ça se retrouve aujourd'hui. Vous connaissez les gens qui lisent l'horoscope ? Dans le train, tout ça ? Bon, vous voyez, c'est pas nouveau, c'est vieux. Vous connaissez les gens qui font de la magie, qui font de l'occultisme ? Oui, non ? Bon, vous voyez, c'est toujours actuel. Vous aimez des gens qui aiment la sagesse ? Je vous entends pas. Ben, tous les Français sont ça, là-dedans. Donc, vous les connaissez ? Vous-même, vous en êtes ? Nous, on est imprégnés par la culture de la sagesse. Eh oui. C'est ça le doute français. Douter. Il faut douter. C'est comme ça qu'on apprend la sagesse. Eh oui, c'est Descartes, c'est tout ça. C'est tous ceux qui nous ont appris à douter. Parce qu'en doutant, vous trouvez la solution. Voyez-vous ? C'est ça, la sagesse. La plus grande sagesse, c'est celui qui doute. Quand vous rentrez en franc-maçonnerie, c'est ce qu'on vous dit. Douter. Douter. Et on vous fait douter. On fait rentrer dans une cabine, tout ça, on fait douter de vous. On vous fait écrire votre testament, tout ça, puis après on le jette. Tout ça. Enfin, tout ça, c'est pour vous douter de vous. Allô ? Vous connaissiez ça, cette culture ? C'est la culture de base française. Et douter. Alors après, vous vous étonnez que vous doutez de votre foi. Une fois, j'étais à Carrefour et j'ai rencontré une dame chrétienne qui représentait l'Église réformée. Dans toutes les réunions, je l'ai rencontrée. Et je dis bonjour, je ne sais plus, c'est Catherine, là, comment ça va? Ah, ça va très bien. Ah bon? Bah, je ne te vois plus dans les réunions inter-église. Elle dit, ah non, j'ai plus la foi. Je dis, ah bon? J'ai perdu la foi. Je dis, ah bon? Je ne savais pas que ça se perdait. Eh ben, on va chercher la foi. Ouais. Ouais, y en a qui perdent la foi. Pourquoi ils perdent la foi? C'est parce qu'elle n'était pas bien accrochée, la foi. Hein, parce que ce n'était pas de la foi, c'était la religion. Donc, nous connaissons des gens qui doutent. Nous sommes dans cette culture. Alors, on va arriver au verset clé. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde... Alors, dites-le tous ensemble. Car tout ce qui est dans le monde... Voyez-vous, il dit, n'aimez pas le monde pour ce qu'il y a dans le monde. Et maintenant, Jean explique ce qu'il y a dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, virgule, la convoitise de la chair, virgule, la convoitise des yeux, virgule, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Hello? C'est ça. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Amen. Alors prenez Genèse. On va retourner dans Genèse. On va voir s'il y a une correspondance. Genèse, l'arbre de la connaissance. Comment est-ce qu'il se présente? Genèse 3. 3, verset 6. La femme, Ève, vit. Elle vit. Ses yeux. Elle vit que l'arbre... Attendez. Vit que l'arbre était bon à manger. Que l'arbre, qu'il était agréable à la vue et qu'il était propre à donner du discernement, de la connaissance. Vous avez les trois éléments, la chair, les yeux, l'orgueil. Ça n'a pas changé. Tout ce qui est dans le monde, c'est lié à l'arbre de la connaissance. Et nous sommes confrontés dans le monde, dans la culture, dans l'environnement où nous sommes, confrontés à cette convoitise de la chair, à cette convoitise des yeux, à cet orgueil de la vie. Et l'identité dont je parle est liée à l'orgueil de la vie. Vivre de manière indépendante. Vivre sans Dieu. Vivre... en faisant les choses moi-même. Vivre, voilà. Et ce qui fait que je doute de mon identité, parce que mon identité, je la mets en quoi? Il faut bien que je la mette dans quelque chose. L'identité, elle plane pas comme ça dans le vide. Elle est dans quelque chose. Alors, il y a des gens qui réfléchissent à notre société et qui nous éclairent parce qu'ils prennent une grande quantité de gens pour ce qu'on appelle les sociologues. La sociologie regarde la société tout entière et donc ils ont une perception, non pas voilà, ce qu'il y a dans notre quartier, mais ce qui est dans le monde. Et ils disent aujourd'hui, après avoir connu des identifications dans les institutions, vous savez que les institutions étaient très fortes. L'institution catholique, waouh, une institution. Hein. Elle rayonnait partout. Elle rayonnait dans le monde de l'éducation, dans le monde partout. L'institution catholique était importante. L'institution de la famille était importante. Elle existe encore beaucoup en Afrique et dans les îles et tout ça. En France, elle a déjà beaucoup de plomb dans l'aile, la famille. L'institution de la République, qu'on connaît depuis 300 ans, elle a du plomb dans l'aile. Hein? Eh oui. Il ne reste plus grand-chose de la République. Hein? Le service militaire, les conscriptions ont disparu. On formatait beaucoup les garçons qui venaient de la Corse ou de la Bretagne. Je ne vais voir qu'une tête. Hein? Et puis, voilà, il y avait un certain nivellement qui permettait que les gens se retrouvent dans une même culture. Bon, l'école aujourd'hui, c'est peut-être la dernière institution qui tenait, c'est terminé. Donc, les acquis de la Révolution, c'est fini, pratiquement fini. Tout ça pour dire que aujourd'hui, nous sommes dans des périodes de doute et les gens se replient sur eux-mêmes. On devient individualiste. Individualiste. Je défends mes intérêts. Mes intérêts. Parce qu'il n'y a plus rien. Plus d'institution, il n'y a plus que moi. Donc je défends. C'est du narcissisme. Facebook et compagnie, tout ça. Je me vends. LinkedIn, je me vends. Voilà. Je vends. Parce que l'institution ne me vend pas, moi je me vends. Vous voyez, et les médias aujourd'hui permettent cela. Donc on y va. On y va. Individualisme à outrance. Et du coup, destruction de la société, destruction de relations, destruction. Voilà, c'est forcément, il y a des conséquences hein, de l'identité. Quelle est mon identité? Est-ce que je suis moi? Si je suis moi, je me replie complètement sur moi hein, et je me vends ici. Et tout le reste, ça m'est égal. Hein. Si mon voisin m'enquiquine, je sors le fusil et puis je lui tire une balle et puis c'est terminé. Radical. Voilà. Ok? Non, mais j'exagère pour vous montrer qu'on est dans une société où l'individu est roi. Alors que ce devrait être Jésus qui est le roi. Parce que l'orgueil de la vie fait que c'est moi qui suis roi sur ma vie. C'est moi qui décide. C'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. On devrait dire c'est Dieu, mais pas le dire, le faire. C'est ça la différence. Et pour le faire, il faut que nous soyons conscients de que c'est une réalité. Et ensuite, après une deuxième. Alors, je ne vais pas aller trop loin à cause de l'heure hein, pour vous amener plus loin. Mais juste, je rappelle la définition du péché de l'identité. Quelqu'un se rappelle. Parce que la dernière fois, on avait, il y a déjà quelques dimanches, on avait identifié les péchés. Que vous avez tous dit, je vous avais dit que si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et qu'il demande ce que c'est que le péché, vous disiez tout cela. Hein. Et on s'apercevait que beaucoup étaient dans le péché du faire. Hein. Déplaire à Dieu, désobéir au commandement, manquer le but, etc. Et pas dans l'être. Or, le plus grave au départ, c'est l'être. C'est l'orgueil de la vie. C'est d'être soi-même. Et cet orgueil de la vie fait que nous sommes d'abord dans l'être avant d'être dans le faire. Et pour cela, il faut que notre identité de chrétien, nous soyons déjà affermis. Parce que sinon, pour arriver à démêler tous les nœuds de notre identité individuelle, c'est beaucoup plus dur si nous ne sommes pas déjà assurés qui nous sommes en Christ, ce que Dieu pense de nous. Vous voyez ? Je me fais comprendre ? Il faut, dans un premier temps, avant d'arriver vers des guérisons successives de nos personnalités, de notre identité, il faut d'abord savoir qui nous sommes en Christ, en Dieu. Et à partir de cette plateforme de révélation que Pierre avait, Pierre a eu, il a fait des bêtises après, Jésus l'a pris en disant « Regarde-moi Satan ». Et Jésus l'a rétabli en lui disant « Seigneur, Pierre, m'aimes-tu » C'est-à-dire il lui a posé les questions sur son appartenance affective à Jésus. Donc il faut déjà que nous sachions qui nous sommes en Christ. Parce que chaque chrétien est responsable de sa propre marche. Moi, je ne peux pas être responsable de la marche d'Annick, par exemple, ou de Charles, ou de Sylviane. Ou... Vous voyez, moi, je suis là pour vous annoncer la parole, pour vous présenter la parole, pour vous la présenter sous un certain jour qui vous interpelle. Mais chacun de nous, nous sommes responsables pour nous-mêmes. On l'a encore lu ce matin. Les enfants ont mangé des raisins. Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants, les dents des enfants étaient agacées. Elle dit, ce proverbe ne se dira plus en Israël. Chacun est responsable de son âme. Okay. Voilà, c'est la responsabilité individuelle. Donc, chaque chrétien est responsable de sa propre marche. Personne ne peut l'aider à grandir. C'est notre décision et notre responsabilité personnelle. C'est vrai sur un plan spirituel, c'est vrai sur un plan humain. Tous les psychologues que vous irez voir, si vous restez dans le déni, si vous dites ah, « je vous vois comme ça », parce qu'en fait son rôle c'est juste de vous dire « je vous vois comme ça », il n'a pas de réponse, simplement il apporte un éclairage de par sa connaissance des mécanismes humains. Mais si vous dites non, je ne suis pas comme ça, okay, vous sortez comme vous étiez rentré. Et j'ai pas mal lu de psychologie chrétienne qui montre des exemples où des chrétiens sont venus et 4 ans après, il n'y a rien de changé, c'est même pire. Et certains autres sont rentrés chez les psychologues au bout de 3 séances, ils sont sortis, ils ne sont plus jamais revenus, ils étaient guéris. Parce qu'ils ont accepté leur condition. Accepter la condition. Et c'est ça le péché. Et le péché de l'identité, donc je vous le rappelle, hein, la définition de ce péché-là, c'est Kierkegaard, c'est un Danois, qui a écrit justement sur cette réflexion de l'existence. Il dit le péché, c'est par désespoir. Par désespoir, virgule. Vous voyez, le péché, ça emmène le désespoir. Et ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas d'espérance, parce que c'est lié à l'identité. Par désespoir, et c'est par manque de connaissance de la grâce absolue. Il y a plusieurs types de grâce. La grâce relative et la grâce absolue. La plupart des chrétiens connaissent la grâce relative, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés par grâce. Mais ils ne sont pas renouvelés par grâce. Ils ne connaissent pas la grâce absolue de Dieu. La grâce absolue amène un changement absolu. Oui. Et très peu de chrétiens arrivent à la grâce, à reconnaître la grâce absolue. C'est dommage. Mais cherchez la grâce absolue de Dieu et vous verrez de l'espoir dans votre vie. Donc par désespoir, donc le péché, c'est par désespoir ne pas vouloir être soi-même. Hein, voilà la définition. Ne pas vouloir être soi-même devant Dieu et devant les autres. Dites-les ensemble. Ne pas vouloir être soi-même devant Dieu, devant les autres. Voyez-vous, le déni, quelqu'un vous dit, un psychologue, ça peut être n'importe qui, tu es comme ceci, comme cela. Ou c'est vrai ou c'est faux. Mais si c'est vrai, si tu dis oui, je le reconnais, ça veut dire que tu es dans l'humilité et tu reconnais qu'il y a besoin d'aide, de médecin. Et donc tu vas à Jésus et Jésus te bénit. Si tu dis non, c'est pas vrai, et que c'est vrai quand même, parce que des fois, des gens qui disent que c'est pas vrai, bah, vous laissez tomber. C'est pas grave. La personne est à côté de la plaque. Ça peut arriver à tout le monde. Nous aussi, on peut être à côté de la plaque. C'est pas un problème. Mais si c'est vrai, vous avez tout intérêt à sortir du déni en disant oui, c'est vrai, ne serait-ce qu'un peu, et j'ai besoin de changer. Et là, hop, votre identité va grandir et vous allez sortir du doute pour aller dans l'autorité que Jésus vous donne. Dans votre identité. Donc, le péché dont je parle, c'est par désespoir ne pas vouloir être soi-même devant Dieu, devant les hommes. C'est le principe de la repentance, mais une repentance profonde. Le fils prodigue, il a demandé sa part d'héritage, il voulait partir, il voulait faire sa vie, il voulait être dans le monde. Ok, il a vu ce que c'est que le monde. Tant qu'il avait de l'argent, il avait des copains. Plus d'argent, plus de copains. Plus que les cochons. Ok, sa vie avec les cochons. Mais ça ne suffit pas. Il fallait que dans le truc des cochons, il commence à penser à Dieu et à son père. Il dit, mince, il compare. Il dit, mince, mais les serviteurs de mon père sont mieux lotis que moi. Moi, je mangeais avec les cochons et eux, ils donnent la manger aux cochons. Donc c'est un peu mieux, ce serait peut-être bien que je retourne chez mon père. Voilà, c'est le début de la repentance. C'est le début de se décentrer de soi pour se centrer sur ce que Dieu a comme projet pour moi. Ce que je pourrais être. L'héritage que je pourrais avoir avec mon père. Et donc il se repent contre Dieu. Hein, il demande pardon au ciel et à son père. Les deux. Conscience de péché contre Dieu et conscience de péché contre mon père. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre parce que tu vas mourir. Je te donne Jésus. On sait que c'est Jésus, parce que dans l'Apocalypse, on retrouve l'arbre de vie, qui est Jésus. Je donne Jésus. Okay. Et ce que Jésus a fait dans l'histoire, c'est qu'il a accepté de mourir sur la croix. Donc il nous a redonné la vie qu'on a perdue par la rédemption, le rachat. Il nous a rachetés. Mais là, il dit, voilà, c'est le monde. Voilà. Fils prodigue. Profite du monde et de tous ses plaisirs. Mais quand tu reviens en toi et tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre mon Père, eh bien, c'est la voie de la guérison. Amen. Je termine avec quelques résumés de la parole de Dieu qui vous dit qui vous êtes en Christ. Et ça, c'est le point de départ de votre guérison. Amen. Alors, je vous cite quelques versets. Quelques versets. Je suis le sel de la terre. Dites, je suis le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Je suis un enfant de Dieu. Jean 1, 12. Je fais partie du vrai cep. Je suis un canal de la vie de Christ. C'est Jean 15, verset 1. Je suis l'ami de Christ. Jean 15, 15. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Jean 15, 16. Je suis esclave de la justice. Romains 6, 18. Je suis esclave de Dieu. Romains 6, 22. Je suis un fils de Dieu. Dieu est spirituellement mon Père. Voilà, ça c'est Romains 8, Galates 5, etc. Je suis co-héritier avec Christ. Il y en a de moins en moins qui le disent, mais c'est vous, hein, qui vous l'appropriez ou pas. Je partage son héritage avec lui. Romains 8, 17. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. 1 Corinthiens 3, 16. Je suis uni au Seigneur et je suis avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Je suis un membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 17. Je suis une nouvelle. 1 Corinthiens 5, 17. Je suis réconcilié avec Dieu. Et j'ai un ministère de réconciliation. Waouh, c'est fort ça. C'est sur ce verset que je me suis converti. Oh, il m'a touché au cœur. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis un fils de Dieu, je suis un en Christ. Je suis un héritier de Dieu parce que je suis un fils de Dieu. Galates 4, 6. Je suis un saint. Dis à ton voisin, tu es un saint. Attention, enlève-lui l'auréole. Hein. Chez nous, les saints, ils n'ont pas d'auréole. Hein. Non, les saints parce que Dieu est saint. Hein. Mis à part. Okay. Je suis l'ouvrage de Dieu. Né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Éphésiens 2, 10. Je suis un concitoyen des saints. Membre de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Je fais juste une petite halte ici pour dire qu'avec Arnaud, on travaille sur notre identité d'église. Et la particularité que nous avons, c'est que nous n'avons pas de territoire sur la terre. Les catholiques, ils ont un territoire qui s'appelle le Vatican. Voilà. Ils s'accrochent. Alors, c'était beaucoup plus grand, hein, la moitié de l'Italie qui leur appartenait. Et au début du XXe siècle, on les a réduits au Vatican. Mais il reste un État. Il reste. Nous, où est-ce qu'elle est notre cité? Dans le ciel. Amen. Donc, notre cité n'est pas sur la terre. Nous n'avons pas à nous attacher au monde, nous avons à nous attacher à ce qui nous attend. Notre cité, nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Je suis un prisonnier du Christ. Éphésiens 3, 1. Laurence, tu veux être prisonnier du Christ? C'est pas bien d'être prisonnier. Tu te rends compte, prisonnier? Non, vous voyez comme quoi les mots peuvent choquer. Mais réfléchissez derrière. Mais l'apôtre dit, je suis un prisonnier du Christ. Amen. Prisonnier libre. Alléluia. Amen. Voilà. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Les prisonniers, il faut les libérer. Maintenant, nous, on veut être prisonniers du Christ. Amen. Je suis saint et juste. Continuez, Éphésiens 4, 24. Je suis un citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes, dès maintenant. Philippiens 3, 20. Je suis caché avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie. Colossiens 3, 4. Je suis choisi par Dieu, saint et aimé de Dieu. Colossiens 3, 12. Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 5. Je suis un saint participant à une vocation, un appel céleste. Hébreux 3, 1. Je suis un participant du Christ, je partage sa vie. Hébreux 3, 14. Je suis une des pierres vivantes de Dieu édifiée en Christ pour être une maison spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Peut-être un peu trop long pour dire tout ça. Je suis membre de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu. 1 Pierre 2, 9. Je suis un étranger et un voyageur. Qui est-ce qui veut être un étranger et un voyageur? Ah, il ne s'agit pas d'aller en Australie ou quoi. C'est que sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Okay? Étranger et voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement. 1 Pierre 2, 11. Je suis un ennemi du diable. Dites-le. Ah oui. Vous êtes ciblé. Hein? Mais n'ayez pas peur. Vous êtes dans la main du Seigneur. Mais il faut savoir. 1 Pierre 5, 8. Je suis un enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra. Ça, c'est mon espérance. 1 Jean 3. Je suis né de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas me toucher. Dites-le ça. Je suis... 1 Jean 5, 18. Je ne suis pas celui qui suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dites, je suis ce que je suis. Voilà, c'est ça Paul, son identité. Il n'a pas dit, voilà celui qui suis, celui qui est. Ça c'est Dieu. Hein? Mais les hommes aujourd'hui disent, voilà celui qui est. Je suis Sarkozy, je suis Hollande. Non, je ne fais pas de politique, excusez-moi. Voilà, mais voilà, je suis. Non, je ne suis pas. Je suis ce que je suis. Voyez, c'est l'humilité ça. J'accepte d'être. Paul était un grand érudit, mais il dit tout ça, je le regarde comme de la boue. Par contre, il s'exprimait avec érudition. Vous voyez, c'est tout ça, c'est les paradoxes, hein, qu'on verra comment guérir de notre personnalité. Et j'aime bien actuellement notre nouvelle famille, RNC, qui vit ça et qui va nous tirer en avant. Alors, parce que nous sommes en Christ, chacune de ces caractéristiques dont j'ai parlé et qu'on a déclinées ensemble est parfaitement vraie pour nous et nous ne pouvons rien faire pour les rendre plus vraies. Tous nos efforts ne vont pas les rendre plus vraies, ce qu'on a dit. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Si je crois la vérité, eh bien, elle chassera le mensonge. Par contre, nous pouvons donner plus de sens à ces aspects et les rendre plus productifs dans notre vie en choisissant simplement de croire ce que Dieu a dit à notre sujet. Amen. Je vais vous lancer un défi. Si toute cette liste, vous la mettez sur le miroir de votre salle de bain, tous les matins, et vous déclamez ça, en un mois, vous êtes changé. Oui, c'est Neil Anderson, hein, il a fait ce travail. Hein. C'est pas moi qui vous ai trouvé tous ces versets. Bien sûr, c'est Neil Anderson, c'est le TQP, enfin, c'est ce qu'on fait. Voilà. Il n'y a rien de nouveau, mais est-ce qu'on le fait? Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à payer des formations, les yeux de la tête, des coachs, des machins. Oui, les coachs, attention aujourd'hui. Samuel, qui dans le coaching, m'a dit, les gens ne peuvent plus passer de coach. Voilà, là. Ce métier est assuré. Je dis, mais alors qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Ils sortent de l'école, ils ont besoin de coach. Dis, ah oui. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? C'est ce qu'on apprend à l'école. Mettre en pratique. Mais difficile, c'est mettre en pratique. Donc on demande à un coach de mettre en pratique pour nous et nous aider à coacher. Non, coachez-vous vous-même. Mettez cette liste sur votre votre truc et déclarez-le. Parce que c'est la vérité. Et vous deviendrez ce que vous déclarez. Ça, c'est le début du renouvellement de votre identité. Si vous croyez ça, vous n'arrivez plus à croire au doute sur vous-même, sur ce que le monde va vous dire quand vous rentrez. « Oh, t'es un nul !» N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, tu te fais engueuler. Hein, hein Rémi, ta machine à chocolat, là, elle marche pas. C'est quoi ça? Tu peux rien, c'est machin. Ben, non, c'est toi qui prends. Pleine figure. Voilà. Mais là, tu vas pas hésiter. Tu dis, moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Bon, tu vas pas dire ça à ton patron. Hein. Mais tu le croiras. Tu le croiras. Moi, ça ne m'atteint pas. Amen. Je fais bien mon boulot, c'est pas de ma faute si les engrenages ont pété à l'intérieur du truc, bon on va le réparer, c'est pas un problème, mais moi je suis ce que je suis, c'est tout. Je me laisse pas influencer. Et ça, ça donne la stabilité à votre identité, à votre personne. Amen. Donc c'est la base. C'est la base. Et après on verra comment on peut guérir du reste, mais le reste c'est de l'idolâtrie. Tout le reste c'est de l'idolâtrie. Parce que quand vous confiez pas en Dieu, vous confiez en quelque chose. Et aujourd'hui, les sociologues disent, c'est l'amour, la romance. Ah, voilà, je vais tomber. Voilà. La romance. Et les gens qui s'identifient à leurs amants, à leurs conjoints, ils s'identifient tellement qu'ils vivent de leur conjoint ou de leur amant. Ça, c'est une thèse développée par Ernest Becker, qui en parle dans son livre et qui est tout à fait juste. Mais ça, c'est la partie guérison. Je vous invite à prier pour que le Seigneur puisse nous aider à nous établir sur le roc, sur sa parole, ce qu'il dit de nous. Amen. Ce qu'il dit sur toi. Lis ses paroles, imprègne-toi de ses déclarations et tu verras que ta solidité dans la foi va s'affirmer. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Et combien de fois, Seigneur, nous croyons plus ce que nous ressentons, ce qu'on dit de nous, plutôt que ce que dit ta parole sur nous. Et ce qu'elle dit que qui nous sommes. Alors, Seigneur, que ces moments puissent nous aider à réaliser cela et à changer de comportement, à déclarer ces choses sur nos vies, surtout quand nous sommes en difficulté, Seigneur, pour que nous puissions pas croire le mensonge que l'ennemi, au travers du monde, va nous faire croire. Mais Seigneur, que nous puissions croire ta parole et qu'elle puisse être au centre de notre vie et de notre destinée. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.